BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
Le soleil est de retour à la Bourse de Paris après une séance difficile hier. Le CAC a repassé au-dessus de la barre des 8000 points. On progresse, Étienne Braque, de pratiquement 1,2% à l'instant.
Et le CAC 40 peut dire merci à LVMH qui gagne 4,5% au-delà des 800 euros et qui permet au CAC 40 de récupérer une grande partie des points perdus hier. Rappelez-vous, hier soir, l'indice avait perdu 1,4%. Là, il reprend 1,16. Tendance positive également du côté de Wall Street, même si c'est bien plus calme. Le Nasdaq est parfaitement stable. Le Dow Jones, de son côté, grappille 0,3%. Et vous avez Wall Street qui met fin surtout à 3 séances dans le rouge.
Dans l'actualité, le retour de l'inflation complique la stratégie de la Fed aux États-Unis. Son président Jerome Powell reconnaît que les membres de la Fed ne sont pas suffisamment confiants dans la trajectoire de l'inflation pour pouvoir baisser les taux. De quoi relancer les spéculations sur un statu quo monétaire jusqu'aux élections qui auront lieu en fin d'année. La BCE peut-elle jouer sa propre partition et baisser ses taux de manière indépendante? Christine Lagarde a une nouvelle fois rappelé qu'elle restait dépendante des données macroéconomiques et pas dépendante de la Fed. Mais est-ce totalement vrai? En pratique, on en débattra avec nos invités du club tout à l'heure à partir de 17h. Et puis, c'est la saison des assemblées générales d'entreprises. Est-ce que le risque climatique et la stratégie environnementale des entreprises vont de nouveau s'inviter dans les débats? Dans quelle mesure est-ce que le Say on Climate peut porter ses fruits? La directrice de Novetic sera avec nous. Elle nous apportera son analyse tout à l'heure à 16h20. Tout de suite, les marchés.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Étienne Braque à Euronext, Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital, est avec moi en plateau. Étienne, hier on s'est fait un petit peu peur quand même sur le CAC, on avait cassé la barre des 8000 points et on s'est dangereusement rapproché de la barre des 7900 points, tout ça c'est pratiquement oublié.
Ah oui, très clairement, et ça montre une nouvelle fois que le marché est en ce moment très compliqué à prévoir. Hein. Rappelez-vous, lundi, il avait gagné 0,4% après un week-end quand même qui a été terrible, avec le pétrole qui montait, etc. Hier, il a perdu 1,5% alors qu'il n'y avait rien de nouveau sur le front géopolitique. Et puis là, aujourd'hui, il reprend 1,2% grâce notamment à LVMH. Alors, vous allez rentrer dans un instant dans le détail de cette publication qui est ni stratosphérique ni catastrophique, mais visiblement, le marché préfère voir le verre à moitié plein avec une hausse de 4,5% à 816 euros. Dans le sillage, vous avez Hermès qui gagne 2,8% à 353 euros. Et puis, ce qui est marquant également dans cette séance, eh bien, c'est l'obligataire qui continue de se détendre aujourd'hui, malgré des propos quand même assez fermes, hein, hier soir de Jerome Powell, qui dit très clairement que les dernières statistiques macroéconomiques n'avaient clairement pas renforcé la confiance des membres de la Fed, le tout à 15 jours pile de la prochaine réunion qui se tiendra le 1er mai. À noter que l'euro tente de se reprendre légèrement face au dollar à 1,0643. Le pétrole se détend avec une baisse d'1% à 89 $, et puis les volumes d'échanges qui sont présents aujourd'hui, vous en reparlerez dans une demi-heure d'un point de vue technique, mais là vous avez 1,5 milliard d'euros négociés dans l'indice à moins d'une heure et demie du fixing. Du côté de Wall Street, vous avez trois indices américains qui continuent légèrement de patauger, mais vous avez quand même une sortie de l'eau après trois séances dans le rouge, hein, notamment pour l'indice S&P 500 qui retrouve les 5000 points, quand de son côté l'indice Dow Jones est à la porte des 38 000 points, et donc le CAC 40 qui surperforme très clairement aujourd'hui Wall Street, mais aussi l'Eurostox 50 qui gagne seulement 0,4%. Idem pour l'indice DAX.
Vous restez avec nous, Étienne. On se retrouve dans un instant. Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital, est en plateau. Un peu compliqué quand même cette publication d'LVMH. Chiffre d'affaires en baisse de 2% au premier trimestre par rapport à l'an dernier. C'est lié à une base de comparaison qui est défavorable, notamment en Chine. On a eu une réaction en deux temps. D'abord, le marché a réagi à la baisse, puis le titre est reparti à la hausse. Je crois que c'est Deutsche Bank, en fait, qui résume bien la situation, qui dit « c'est un trimestre faible en termes absolus, mais qui finalement est robuste en termes relatifs ».
Oui, on va dire que c'est moins pire qu'attendu. C'est-à-dire que le marché avait des doutes, notamment sur la croissance en Chine. Finalement, ils ne sortent que moins 2 sur le global, donc plus 3 en organique, ce qui n'est pas si mal. Donc effectivement, l'analyse n'est pas facile parce que quand on a une valorisation, quand on a une société de croissance avec des valorisations de croissance, quand il n'y a plus de croissance, logiquement, la valorisation a plutôt tendance à se tendre. Sauf qu'LVMH, aujourd'hui, c'est la plus grosse pondération du CAC d'Europe. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt une valeur refuge, vue comme une valeur refuge en tout cas. Et donc, c'est une société qui est capable, malgré une croissance chinoise qui est particulièrement faible, de sortir des croissances organiques. Alors 2-3%, c'est pas dingue encore une fois, mais c'est vrai que les bases de comparaison sont quand même difficiles sur LVMH depuis quelques années. Donc c'est une publication qui est en demi-teinte, parce que pour une valeur de croissance, plus de croissance, c'est pas génial, mais par contre ils arrivent à sortir quand même un bout de croissance avec une zone Asie qui est quand même très délicate.
Ce que disent certains analystes, c'est que LVMH a rassuré sur ses perspectives.
Oui, il rassure, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y aura pas de dégradation par rapport à la publication du T1, donc ça c'est plutôt bien. Les spiritueux, est-ce qu'on a vu le gros de la baisse? Sans doute. On est quand même sur des décroissances à deux chiffres, même sur LVMH. Donc le reste tourne pas si mal.
La maroquinerie notamment, qui est vraiment le nerf de la guerre.
Exactement. C'est aussi pour ça que Hermès se comporte plutôt très bien. On a pratiquement 3% de hausse sur Hermès. La publication de Hermès par rapport à la publication de ce jour de LVMH risque d'apporter de bonnes surprises.
Dans l'actualité également, De Rich Bourse, c'est un groupe de services aux entreprises et aux collectivités. Il a revu à la baisse ses prévisions d'EBITDA, de revenus résultats bruts d'exploitation, compris entre 300 et 310 millions d'euros cette année. Alors on est très en dessous de l'objectif initial qui était de 350 millions d'euros. C'est lié à une cyberattaque qui a eu lieu en fin d'année, au mois de novembre, dont le coût pour De Rich Bourse a été revu à la hausse.
En termes de communication de Richebourg, je ne sais pas qui s'occupe de la communication, mais c'est juste une catastrophe. C'est-à-dire que une cybersécurité en novembre, décembre, janvier, donc une attaque il y a quand même 3-4 mois, voire davantage, qui a un impact aussi fort sur les EBITDA, qui est annoncé fin avril, allez, deuxième partie d'avril, sur la publication donc des chiffres 2023, c'est pas normal.
Ça donne le sentiment que soit on nous a caché certains éléments, soit on ne sait peut-être pas tout.
Je pense que c'est un prétexte. L'activité ralentit, c'est évident. Les volumes sont plus faibles, les prix sont plus faibles, donc c'est compliqué. On le voit bien que c'est plus compliqué, surtout sur les activités cycliques. La cybersécurité, je pense qu'elle a bon dos, et je pense qu'en termes de communication, c'est pas une bonne nouvelle pour De Rich Bourse. On aime bien le dossier d'un point de vue opérationnel, mais je trouve que la communication met un frein vraiment à l'investissement sur un dossier comme celui.
Dans l'actualité, il y a également la chute de ASML qui recule en bourse. Étienne Braque, pourquoi est-ce que le titre est en baisse?
Ah bah oui, alors là, autant pour LVMH que le marché préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais alors là, pour ASML, c'est totalement l'inverse, avec, rappelons-le, ASML qui est la plus grosse capitalisation en Europe, juste derrière Novo Nordisk, et qui perd 6% aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'Eurostoxx 50 ne gagne que 0,5%, contrairement à CAC qui gagne 1,2%. ASML qui publie un résultat net en baisse de 40% par rapport au résultat net du quatrième trimestre, et puis dans le même temps, vous avez également un carnet de commandes qui est bien en deçà des attentes, puisque vous avez un consensus qui s'attendait à 5,4 milliards en termes de carnet de commandes sur les trois premiers mois de l'année. Et là, finalement, il ressort à 3,6%, avec un groupe qui est de plus en plus dépendant à la Chine. 49% du chiffre d'affaires au premier trimestre a été réalisé en Chine, avec un secteur un petit peu comme dans le luxe, qui sort d'une phase d'euphorie. Souvenez-vous, on était, pendant la sortie des confinements, en pleine période de pénurie sur les semi-conducteurs. Ça nous paraît loin, mais aujourd'hui, forcément, vous avez une activité qui ralentit. On l'a encore vu ces derniers jours avec Soitec qui a pris une séance très compliquée en bourse après le maintien de ses résultats pour 2024. Et puis ASML qui annonce donc des commandes d'une façon assez irrégulière d'un trimestre à l'autre. Néanmoins, le marché confirme, le groupe pardon, confirme ses prévisions pour cette année. Mais ça ne suffit pas à maintenir ce titre qui a connu un parcours stratosphérique ces derniers mois. Et donc le marché qui vend la nouvelle sur ce titre ASML qui perd un peu plus de 6%. Et puis justement, en parlant de technologie, le CAC 40 et puis la Bourse de Paris, pas encore le CAC 40, peut-être un jour, va retrouver une nouvelle valeur technologique. C'est Planisware, ça sera demain l'introduction en bourse. Le groupe a annoncé ce matin qu'il allait finalement aller en bourse, puisqu'en octobre, finalement, en dernière minute, il avait renoncé. Une valorisation boursière qui est attendue au-delà du milliard d'euros pour ce spécialiste des logiciels.
Du coup, ça va vous faire de la compagnie demain matin, parce que généralement, les introductions, elles viennent sonner la cloche à Euronext. C'est une question.
Ah oui, vous direz ça à Antoine Larigauderie et puis à Otker Sulek qui suivra tout au long de l'après-midi cette séance.
Merci Étienne, on se retrouve un petit peu plus tard. Thibault François, c'est compliqué les semi-conducteurs, c'est très sensible à la géopolitique puisque le numéro 1 mondial est de loin TSMC à Taïwan. Bon, évidemment, c'est compliqué.
Oui, mais tout le secteur est compliqué et tout le monde l'a annoncé. Hein. ASML, ASMI, STM, Soitec, ils ont annoncé que 2024, c'était une année de transition, qu'il n'y aurait pas de croissance. Bon, là, on voit bien que la publication d'ASML, non seulement il n'y a pas de croissance, mais en plus, il y a une forte décroissance sur le premier trimestre, donc c'est très compliqué. Alors, ils rassurent, ils essayent de rassurer en disant qu'ils vont faire les objectifs 2024, mais il va vraiment falloir bosser sur les trois derniers trimestres pour pouvoir rattraper le retard sur le premier trimestre. Donc, c'est aussi pour ça que c'est vendu, c'est-à-dire qu'on a une grosse valo, c'est une valeur de croissance, il n'y a plus de croissance, et derrière, il va falloir justifier un petit peu la valorisation actuelle de ASML. C'est pas facile. Et encore une fois, il va falloir sortir de la croissance sur les trois derniers trimestres.
Un petit mot de Emeis, c'est le nouveau nom de Orpea. Le groupe revoit à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année. Malgré un chiffre d'affaires en progression de 11% au premier trimestre, il y a un problème de remplissage.
Oui, c'est mieux quand même. C'est mieux. C'est-à-dire que le remplissage...
On était à 83,1% de taux d'occupation en moyenne sur l'ensemble des établissements au premier trimestre. C'est quoi ? C'est encore les cicatrices du scandale.
Bien sûr. Mais il n'y a rien de catastrophique. C'est-à-dire qu'on nous annonçait des choses particulièrement catastrophiques. C'est pour ça qu'il y a eu des augmentations de capital assez importantes. Ouais. Il y a eu des haircuts sur la dette extrêmement importants. La dette a été divisée par deux. Donc, il y a eu des gens qui ont pris leur perte, on va dire, de façon extrêmement importante. Et finalement, c'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire qu'on a beau dire, effectivement, il n'y a que 83% de taux d'occupation. C'est pas si catastrophique que ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que la croissance est quand même au rendez-vous. Ils gagnent de l'argent. Alors, bien sûr, c'est compliqué de rembourser l'endettement, etc. Mais on a les chiffres au 31 décembre 2023, sachant qu'il y a eu une augmentation de capital déjà depuis le début de l'année. Donc, ça veut dire que la situation financière est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était au 31 décembre 2023. Et je pense que l'année 2024 va être une année, on va dire, un petit peu molle. Mais par contre, les perspectives derrière sont plutôt intéressantes. Il y a toujours de la croissance qui est attendue sur l'ensemble du secteur.
Merci Thibaut François. Fastea Capital, on se retrouve tout à l'heure à la clôture du marché parisien. Il est 16h15. C'est Manon Coulon qui nous appelle depuis Erasmus Gestion. Bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Pour notre valeur ajoutée, on va aller en Italie. On s'intéresse aujourd'hui à San Lorenzo. C'est un chantier naval spécialisé dans les yachts de luxe. Pourquoi est-ce que la valeur est intéressante selon vous ?
Eh bien, San Lorenzo, que nous détenons dans le fonds Erasmus Small Cap Euro, est intéressante d'abord parce qu'elle est positionnée sur un marché intéressant, le marché de l'ultra-luxe, parce qu'il faut quand même compter quelques millions d'euros par bateau si vous voulez acquérir un yacht San Lorenzo, est un marché très résilient, avec une population d'individus qui est assez étonnamment encore largement sous-pénétrée. Peu d'ultra-riches disposent d'un yacht. San Lorenzo est leader sur son cœur de marché, que sont les yachts semi-mesure de 100 à 130 pieds de long, c'est-à-dire 30 à 40 mètres de long, sont déjà des beaux bébés. Et puis c'est un acteur historique avec une marque forte, créée dans les années 50, donc après, avec à peu près 60 ans d'existence. San Lorenzo a eu le temps de développer une gamme large de bateaux avec une marque unique. Qui dit marque unique dit image de marque forte, impactante et plus facile à marketer que certains de ses concurrents qui se sont construits par acquisition de marque.
Manon, le groupe a très bien performé depuis quelques années, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Est-ce que selon vous, il y a encore des relais de croissance ou est-ce qu'on arrive peut-être à la fin d'un cycle ? Vous savez ce qu'on dit, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel.
Alors vous avez raison, San Lorenzo a très bien performé ces dernières années avec un chiffre d'affaires multiplié par 20 en 20 ans. Le levier opérationnel a également été très important. La marge est passée de 9,5% à 15% en 4 ans. Et puis, petite particularité du marché du luxe, et des yachts de luxe en particulier, les bateaux sont vendus au client final, sur plan et payés en amont de la livraison. C'est-à-dire pas de risque d'inventaire, besoin en fonds de roulement limité, ce qui permet aux chantiers navals, malgré des besoins capitalistiques importants, de dégager des flux de trésorerie très conséquents. Mais alors effectivement, après tout ça, est-ce qu'il y en a encore sous le pied ? Eh bien, San Lorenzo en a encore sous le pied, effectivement, avec ce que j'appellerais des opportunités adjacentes. Tout d'abord, l'expansion vers une offre de super yachts. Alors effectivement, il y a des yachts encore plus grands que 40 mètres. San Lorenzo en a fabriqué 3 en 2019, 8 en 2023. Donc, San Lorenzo augmente la cadence sur ce sujet. Et puis, vers une offre également plus écologique. Et sur ce sujet, ils sont les pionniers sur le développement de moteurs hybrides fonctionnant à l'hydrogène et des yachts basse consommation. Mais San Lorenzo essaie également de descendre dans la chaîne de valeur avec l'acquisition d'un concessionnaire en Asie, Simpson Marine, marché asiatique particulièrement sous-pénétré. Donc ici, c'est très intéressant d'aller plus proche plus proche du client final. Et puis, enfin, San Lorenzo se développe vers un service de rénovation de yacht qui lui permettra éventuellement de limiter l'effet de cycle en cas de ralentissement de son activité principale.
Merci beaucoup Manon Coulon, responsable de l'analyse chez Erasmus Gestion. Le titre San Lorenzo en légère progression, plus 0,1%. On est à 39,70 €. On passe à l'écho du monde.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et on va de nouveau parler d'inflation. L'inflation qui continue de ralentir dans la zone euro. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% au mois de mars. En rythme annuel, le chiffre a été confirmé ce matin contre 2,6% en février et 2,8% en janvier. L'inflation sous-jacente continue également de ralentir. On va mettre ces chiffres en perspective avec Léa Dauphas. Bonjour Léa.
Bonjour Stéphane.
Chef économiste chez Tax Economics, ça n'est pas du tout la même tendance que celle qu'on enregistre aux États-Unis, où là, l'inflation repart à la hausse. Pourquoi est-ce que la zone euro est plus épargnée face à ce retour de l'inflation ?
Alors, je ne dirais pas nécessairement que la zone euro n'est pas épargnée par le retour de l'inflation. On a quand même deux problématiques communes, côté américain et côté européen. C'est la persistance de l'inflation sur les services. On a une inertie forte sur les services. Quand on regarde dans le détail les chiffres qu'on a eu en zone euro aujourd'hui, les prix des services stagnent en fait depuis le mois de novembre à 4% en variation annuelle. Alors ils sont plus élevés aux États-Unis en comparaison, ils sont à 5,4%, mais les deux zones connaissent cette persistance et cette inertie sur les prix des services. Par contre, effectivement, là où les prix des services restent, continuent à augmenter et sont assez importants, en zone euro, sur les autres composantes, on a un retour. Hein, les prix de l'énergie sont en contraction à 1,8%. Les prix des biens, on est à 1%. Les prix de l'alimentaire décélèrent aussi assez rapidement. Donc, on a toute cette logique-là. Et c'est plutôt en fait la dynamique de croissance qui est différente entre l'une et l'autre, avec un sous-jacent macro qui était plus faible en zone euro. Un bon chiffre à mettre en avant, c'est ce qu'on appelle l'acquis de croissance. En zone euro, si on n'a pas de croissance sur les prochains trimestres, sur l'ensemble de l'année 2024, on est à 0% de croissance. Là où aux États-Unis, on est à 1,4% d'acquis de croissance. Donc c'est vraiment ce prisme-là. Les composantes de l'inflation montrent la même problématique pour les deux zones, à savoir une inertie, une persistance forte dans les services. Par contre, on a un risque qui est plutôt celui de la surchauffe aux États-Unis, là où en zone euro, on sort seulement aujourd'hui du marasme, du post-Covid et de la guerre en Ukraine.
Léa, c'est plus compliqué aux États-Unis. Jérôme Powell l'a confirmé hier soir, le président de la Réserve fédérale américaine. Il reconnaît que les membres de la Fed aujourd'hui ne sont pas suffisamment confiants face à la trajectoire de l'inflation pour pouvoir baisser les taux aux États-Unis.
Exactement, et c'est un vrai questionnement. On parlait de l'inertie des services, c'est vraiment le sujet. Aux États-Unis, en fait, les services, c'est à peu près 60% de l'inflation, et dans ces sous-composantes, dans ce qui fait les prix des services, 60% provient des prix des loyers. On s'attendait, avec un effet retard d'ajustement du marché immobilier, à ce que les prix des loyers baissent, et vu que c'est 60% des services, ça aurait dû faire baisser plus franchement l'inflation que ce qu'on voyait. Et là, on s'aperçoit, en fait, depuis les trois derniers mois, que non seulement les prix des loyers ne baissent pas et stagnent, mais qu'en plus, toutes les composantes des prix des services, les services liés au transport ou à la santé, augmentent. Et donc, on a une double combinaison. À la fois, la grosse partie des services qui est attendue en baisse ne baisse plus. Et en plus, les autres composantes sont en train d'accélérer, avec, en plus, des composantes énergétiques qui augmentent. Donc, on s'attendait à quelque chose d'assez visible côté inflation américaine. On ne le voit pas. On a du mal à savoir un peu comment ça va s'ajuster. Donc, les questionnements qu'on a sont les mêmes que ceux de la Fed. Et elle a ce sous-jacent pour expliquer que, pour l'instant, il faut attendre de voir une décélération plus franche de l'inflation et notamment sur les services.
Du côté de la BCE, Christine Lagarde a pris la parole hier pour rappeler qu'elle était dépendante des données macroéconomiques, mais qu'elle n'était pas dépendante de la Fed. On sait que le sujet l'agace. Elle essaye de désamorcer, en fait, toutes ces spéculations sur le fait que la BCE sera forcément contrainte dans ces baisses de taux si la Fed, elle, choisit de ne pas bouger jusqu'à la fin de l'année. On a quand même l'impression qu'elle rame derrière la Fed et derrière toutes ces spéculations.
Le vrai sujet, en fait, avec la question du moment, c'est surtout, est-ce que la Fed va baisser les taux ? La BCE est assez claire hein, dans sa dynamique. Elle a trois raisons, trois critères pour baisser les taux. La transmission de politique monétaire, ça c'est bon. Les projections d'inflation, ça c'est bon. Et la dynamique de l'inflation sous-jacente. Pour l'instant, les critères semblent valider et valideraient une baisse de juin. Si la Fed recule et baisse en juillet ou en septembre, à la limite, il y a quelques mois de décalage, c'est pas un sujet. Par contre, le risque serait vraiment que la Fed face à des pressions d'inflation persistantes, voire à une reprise sur les prix des services, n'augmente plus, enfin ne rentre plus dans un cycle de desserrement de sa politique monétaire. Et là, ça serait une vraie différence. Pour nous, c'est plutôt un décalage qu'une vraie divergence entre les politiques monétaires, mais à valider sur les prochains chiffres d'inflation côté américain.
Merci beaucoup, Léa Dauphas, pour votre analyse, chef économiste chez TAC Economics. 16h23, on va parler Assemblée Générale d'Entreprise et transition climatique.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
La saison des assemblées générales a débuté. Cette année encore, il va être question de changement climatique et de stratégie de politique environnementale. On va faire le point avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour.
Bonjour.
Du côté des entreprises, on va certainement nous expliquer qu'on est passé des intentions à l'action en matière de réduction des gaz à effet de serre. Du côté des actionnaires, il y a une demande pour davantage de transparence sur ces politiques. Et puis du côté des ONG, je pense pas me tromper, mais ça va être encore l'occasion de donner un coup de pression supplémentaire. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Catherine, sans trop se tromper, que ça va encore être animé sur cette question dans les assemblées générales?
Alors oui, le climat va être variable forcément selon les secteurs. On sait traditionnellement que pour les majors pétrolières comme pour les banques, c'est vraiment un moment de haute tension. Et d'ailleurs, la plupart de ces AG se tiennent désormais avec des mesures de sécurité tout à fait remarquable. Ce qui est intéressant là, c'est que l'extension du domaine de la lutte climatique est patente, et surtout que on est vraiment dans la phase où les grands engagements pris la main sur le cœur ne sont pas crus comme tels, certes par les ONG, mais aussi par les actionnaires. Et donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a un mouvement en France, alors qui est porté par ce qu'on appelle les Say on Climate. Les Say on Climate, c'est que l'entreprise soumet au vote des actionnaires son plan climat. Et peut-être que ça vous en souvenez, mais l'année dernière, l'idée, c'était d'introduire l'obligation pour toutes les grandes entreprises de faire des Say on Climate, toutes les grandes entreprises cotées. Mais cet amendement a été retoqué, donc il n'est pas dans la loi Industrie Verte, il n'est pas non plus dans la loi qui est en discussion sur le rayonnement de la place financière de Paris. Donc, malgré tout, si les entreprises veulent le faire, elles peuvent le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a le Forum pour l'investissement responsable qui fait campagne au nom des actionnaires pour qu'ils puissent avoir une information climatique claire, oui, sur les entreprises. Et donc là, au vu du nombre de Say on Climate pour 2024 en France, on en a moins d'une demi-douzaine. Il a élargi son champ de vision. Donc en fait, il travaillera aussi en partenariat avec la Fondation Suisse Ethos et l'ADEME et la World Benchmarking Alliance pour vraiment faire une évaluation des plans climat proposés à la fois par les entreprises françaises, européennes, suisses et britanniques.
Et quelle est la tendance sur ces plans?
Alors en Suisse, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une obligation en Suisse qui va entrer en vigueur l'année prochaine qui les oblige à avoir un plan climat pour les entreprises cotées, bien évidemment, alors qu'elles ont déjà un rapport de durabilité. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une qui fait ça vraiment, c'est Holcim, qu'on connaît bien puisqu'elle a fusionné avec Lafarge, le ciment.
Mais c'est un secteur extrêmement polluant.
On est bien d'accord, très émetteur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la Fondation Ethos, partenaire du Forum pour l'investissement responsable, si vous me suivez, appelle à voter contre le plan climatique proposé par Nestlé, qui est aussi, en étant dans le secteur de l'agro-industrie, un très gros émetteur de CO2. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les éléments pour lesquels ils appellent à voter contre, c'est à la fois parce qu'en fait, ils publient une donnée agrégée de CO2. Donc on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et en fait, ils reprochent à Nestlé de ne pas ventiler par émissions liées à l'agriculture, émissions liées au transport, à la transformation alimentaire, parce que cette donnée agrégée, elle ne veut pas dire grand-chose. Et c'est la demande des investisseurs aujourd'hui, c'est non seulement d'avoir une précision sur la donnée CO2 qu'on donne, est-ce que c'est du scope 1, 2, 3, mais aussi et surtout, quels sont les investissements faits pour vraiment réduire les émissions de CO2 comme on l'annonce. C'est-à-dire que ce que dit la Fondation Ethos, c'est que le rapport de Nestlé ne dit ni quelles sont les dépenses d'investissement maintenant et futures qui vont permettre de mettre en œuvre le plan climatique qu'il a adopté.
Donc c'est pour ça, j'imagine, selon vous, que le Say on Climate est important, quelle que soit la forme.
C'est pour ça que les investisseurs se battent pour en avoir, parce que ça leur permet d'étudier la crédibilité de la démarche, à la fois dans l'objectif fixé, mais surtout dans le plan d'action mis en place pour l'atteindre. Juste un ordre d'idée, Ferrovial, qui est une société espagnole, qui fait à la fois des aéroports et des tramways. Alors évidemment, les tramways, c'est plutôt bon pour le climat, les aéroports, ça se discute.
Un petit peu moins.
Voilà, et donc son plan climat a été approuvé par 93% de ses actionnaires. Bon, c'est pas si extraordinaire que ça, il y a quand même des doutes un peu, mais surtout il a été noté 5 sur 20 par la politique d'évaluation du Forum pour l'investissement responsable, et ça c'est une sacrée alerte. Et pourquoi 5 sur 20? Exactement pour la même raison que Nestlé, c'est-à-dire on ne sait pas grand-chose de ce plan, il est quand même très centré sur la construction des infrastructures et pas du tout sur leur usage. Donc quand on parle d'aéroport, c'est quand même intéressant de savoir effectivement quelle est la contribution au réchauffement climatique. Donc on est vraiment sur un changement de paradigme où les investisseurs deviennent de plus en plus pressants pour qu'il y ait de la crédibilité sur la donnée climat qui leur est donnée et sur la transition, et on ne peut pas dire qu'à ce stade les entreprises répondent vraiment à leurs attentes.
Ça c'est vrai en Europe, mais est-ce que c'est vrai également aux États-Unis?
Alors on se dit qu'aux États-Unis ils s'en fichent complètement, ils font les énergies fossiles à fond et que l'ESG bashing est en plein boom. Alors c'est vrai, mais par contre les actionnaires du coup redoublent d'intensité. On est à 263 résolutions climat déposées pour les AG 2024, c'est-à-dire 4 de plus que l'an dernier, et avec justement une pression de plus en plus importante, en particulier sur les grandes banques. On a le fonds de pension de la ville de New York qui a déposé une résolution aux AG de Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley pour leur demander le ratio entre leurs investissements verts, dans les énergies renouvelables par exemple, et leurs investissements bruns, dans les énergies fossiles. Donc ça permettra d'y voir plus clair sur ce que financent vraiment les grandes banques américaines.
Merci beaucoup, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Toujours un plaisir de vous recevoir en plateau. Dans un instant, la famille BFM Bourse, le moment où on peut parler de tout autour de cette table, dans un climat un petit peu décontracté. On vous parlera notamment des semi-conducteurs, on reviendra sur le chiffre d'affaires d'LVMH. On vous parlera de Netflix. Est-ce que Netflix, c'est vraiment fantastique? Antoine Pelet sera avec nous de Monocle Asset Management. Il n'est pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
Et comme tous les jours à 7h06, c'est l'heure de la famille BFM Business, le moment où on passe en revue l'actualité, on la commente, on peut échanger de manière décontractée. Julien Marion m'a rejoint en plateau. Salut Julien.
Bonjour Stéphane, en toute décontraction.
En toute décontraction. Moi, j'ai pas mis de cravate. Toi, en revanche, tu en portes une. C'est un signe. Journaliste BFM Business, BFM Bourse. Et puis Romain Daubry, qui lui est à distance, qui est un membre de la famille également. Salut Romain.
Bonjour Stéphane.
Marché dérivé et info d'experts chez Bourse Direct. Cette séance de mercredi, finalement, elle nous fait oublier, Julien, ce qui s'est passé hier. On est repassé au-dessus de la barre des 8000 points sur le CAC.
On n'efface pas totalement les pertes d'hier, mais ça fait du bien. Et on superforme d'ailleurs les autres indices européens. Alors ça, c'est dû, et on va l'expliquer un peu plus tard, à LVMH et au luxe qui nous portent, qui essentiellement, il y a une légère accalmie, il me semble, sur les rendements obligataires, puisque le 10 ans américain se stabilise au moment où, en tout cas, j'ai écrit la mi-séance.
Ouais, effectivement, il y a quand même des interrogations sur le parcours de l'inflation aux États-Unis. C'est Jérôme Powell qui l'a dit hier soir, on y reviendra tout à l'heure dans le club, et qui empêche les membres de la Fed pour l'instant de se prononcer en faveur d'une baisse de taux. C'est ce qu'il a indiqué hier soir aux États-Unis. Puis on parlera également de Christine Lagarde, puisque elle a rappelé qu'elle était data dependent et non pas Fed dependent. On a l'impression quand même que ça rame du côté de la BCE pour tenter de désamorcer cette idée récurrente que la BCE aura forcément, peut-être pas les pieds et les poings liés, mais en tout cas une marge de manœuvre réduite pour baisser ses taux si la Fed, elle, choisit de ne rien faire. Alors, on est à 8008 points sur le CAC. On va voir ce que ça donne d'un point de vue technique avec toi, Romain Daubry. 8008 points, ça nous emmène où?
8000 points, c'est un peu un niveau pivot. On est toujours dans une phase de consolidation qui a été entamée à la fin du mois de mars sur les grands indices. Elle est toujours valide. Elle se produit doucement avec peu d'accélération baissière. Ce qui se passe, c'est qu'on a, à mon sens, cette semaine, puisque c'est une semaine technique d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi, plus de spéculation d'un côté, de technique aussi de l'autre. Il faut rappeler que plus on approche de cette échéance, plus les arbitragistes qui, eux, n'ont pas d'intérêt directionnel fort, doivent équilibrer leur position. Et donc, si on déborde des niveaux techniques, ils accentuent le mouvement, et si on les rompt, de la même façon. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. On voit que l'indice fait des mouvements avec des retracements assez marqués. Sur les points hauts de tout à l'heure, on était en baisse de 0,75% par rapport au rebond entamé tout à l'heure. Et on arbitre évidemment les publications. LVMH fait du bien, manifestement. Reste qu'on a une grosse journée demain avec L'Oréal, qui, elle, est un petit peu moins costaud, puisqu'elle prenait plus de 2% tout à l'heure, et elle ne prend plus qu'un peu plus d'1% pour l'instant. Donc, il y a pas mal de spéculation, pas mal d'arbitrage, pas beaucoup de fonds, à mon avis, sur ces niveaux-là. On a aussi un petit solde vendeur qu'on avait détecté sur les futurs, reste qu'il n'est pas très fort, il n'y a pas de stratégie baissière lourde, mais un intérêt qui est très en retrait, puisqu'on a plus de 20% d'intérêt en moins que sur la moyenne des trois dernières années sur l'Eurostox. Ça veut dire que les opérateurs ne prennent pas beaucoup d'initiatives, qui seront plutôt prompts, à mon avis, à rentrer sur repli. Et je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé les niveaux de repli suffisamment intéressants pour créer de l'intérêt qui serait plutôt un peu plus bas. Et en contrepartie, on sait qu'on a un consensus qui veut absolument acheter sur repli. C'est la déclaration de 80% des opérateurs et des gens qu'on interviewe. Et puis, on sait qu'il y a du cash. Et en plus de ça, alors qu'on déplorait un risque du côté des couvertures dans les portefeuilles, puisque les opérateurs étaient très, très optimistes, voire hyper complaisants, eh bien, on a un niveau de couverture qui a été très sensiblement remonté. La volatilité sur le CAC est autour de 15, celle sur le VIX autour de 18. On n'est plus à des niveaux de complaisance qu'on connaissait précédemment. Donc ça freine aussi le mouvement baissier. Donc on a deux éléments en complémentaire.
Oui.
Je pense qu'il faut attendre les publications d'un côté, l'échéance des marchés dérivés de vendredi, qui est toujours un pivot de marché, pour voir si on a réellement touché un point bas ici, ou si on double le score à la baisse.
On est à 8002 points sur le CAC. Où est-ce qu'on va ? On risque de repasser en dessous, là. C'est la tendance de ces dernières minutes.
C'est le niveau charnière. En fait, le niveau d'alerte sur le futur CAC 40 avril, c'est 7981, 7935, 7981. On a testé ce niveau pendant quelques heures et puis on a rebondi dessus. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, l'alerte complémentaire ne se déclenchera pas. En revanche, il faudrait passer 8054, 8089 pour mettre fin à cette séquence baissière et repasser en zone de neutralité de moyen terme, on peut dire. Donc même pas de réactiver franchement une tendance haussière, mais de neutraliser le mouvement de baisse. Donc pour l'instant, on reste baissier. Si on rompt 7935, on a derrière 7817 sur le futur, et puis surtout 7664. Il me semble que ce serait le point d'entrée idéal. Maintenant, encore une fois, c'est rarement ce qui est idéal qui se produit sur les marchés.
Côté actif, tu as choisi, paraît-il, dans cette demi-heure, de nous parler d'un ETF en Chine, CNAA.
Oui, effectivement, c'est un ETF multi-action chinoise, CNAA. Il est intéressant parce qu'on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, la Chine, c'est un call et un pari qui nous paraissent intéressants dans les semaines ou dans les mois qui viennent, et le mouvement se confirme, et l'ETF en question est en train de rebondir. Il a bien rebondi au-delà d'un support majeur à 114, et il est en train d'attaquer la ligne de tendance, une ligne de coût d'une figure de retournement haussière qui est située autour de 128, pour valider manifestement, avec un peu de volume, cette figure de retournement haussière. Alors on a une première résistance à 132,10, et la cible minimale de ce mouvement, c'est 146,70, et on pense qu'il peut y avoir des extensions jusqu'à 163,50. C'est un moyen de travailler la Chine de façon un peu plus lissé que de choisir des titres individuellement et puis de le faire de façon plus simple sur un portefeuille. Alors, ça n'est pas éligible au PEA, mais c'est intéressant. En revanche, si le produit en question repasse sous 122,80, ça invaliderait ce scénario. Donc, on a un ratio risque-rendement assez intéressant compte tenu des cours actuels encore.
Merci beaucoup, Romain Daubry, Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure à la clôture du marché parisien pour faire le bilan de cette séance de mercredi. Le CAC en progression de 0,88%. Il est à 8002 points. 16h38, on va passer à la question du jour qui concerne les semi-conducteurs avec la baisse du titre ASML sur les marchés. On vous a demandé aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les semi-conducteurs sont trop volatiles sur les marchés ? Vous aviez trois réponses possibles. Oui, non, ou alors c'est précisément la volatilité, ce que vous recherchez lorsque vous investissez. Julien.
Oui, alors c'est pas n'importe quoi, ASML. On parle de la troisième capitalisation européenne avec près de 350 milliards d'euros. On n'était pas très loin à un moment donné de LVMH. Hein. Et alors, pourquoi ça chute aujourd'hui ? Parce que ça perd 6% la Bourse d'Amsterdam. C'est pour ça qu'on vous pose cette question aujourd'hui. C'est parce que les prises de commandes sont justes. Hein. ASML, c'est pas vraiment un groupe qui fait des puces, des semi-conducteurs, mais qui fait ce qu'on appelle la photolithographie. Hein. C'est un processus d'optique très important pour la conception des semi-conducteurs. Et donc, les prises de commandes sont justes. Hein. On est à 3,6 milliards d'euros. Le consensus était à plus de 5. Donc il y a quand même un écart assez significatif et c'est ça qui fait mal. Alors les analystes relativisent un peu en disant qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, les prises de commandes dans le secteur, eh ben, elles peuvent être assez, chaotiques, si vous voulez, pas régulières d'un trimestre à l'autre. Mais donc ça use quand même la volatilité du secteur. Et c'est vrai que, regardez Soitec, ST Micro, c'est des entreprises qui ont souvent des variations très, très poussées à la suite d'une publication. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on veut. Parce que dans un portefeuille diversifié, vous allez avoir, vous pouvez très bien avoir du air liquide, une valeur, j'ai presque envie de dire, un peu sûre, entre guillemets, et chercher de la volatilité. Parce que les semi-conducteurs, certes, c'est volatile, mais c'est quand même en hausse quand vous regardez sur le long terme.
Oui, on en parlait tout à l'heure avec un invité un peu plus tôt dans l'émission, et c'est vrai que la plupart des acteurs du secteur avaient prévenu que 2024 serait une année de transition pour les semi-conducteurs. En sortie de crise sanitaire, on manquait de puces électroniques, les cours avaient fortement progressé dans ce secteur, et les ratios de valorisation étaient montés assez haut. Et c'est vrai que quand on a une valeur de croissance et qu'on est valorisé à un niveau assez élevé, lorsqu'il y a plus ou moins de croissance, ça devient un peu plus compliqué au niveau boursier. C'est pas très compliqué, mais effectivement, ça explique la réaction des marchés. Et puis, c'est un secteur, on le sait, qui est très, très dépendant, très sensible à la géopolitique. Le numéro un mondial du secteur TSMC est à Taïwan. Il y a régulièrement des interrogations sur l'attitude de la Chine par rapport à Taïwan. Et donc, tout ça explique pourquoi c'est un secteur très sensible à la géopolitique, pourquoi on peut avoir effectivement parfois des réactions un petit peu épidermiques sur les semi-conducteurs. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un secteur trop volatile ? Le résultat du questionnaire qu'on vous a adressé sur les réseaux sociaux, oui, 29%, non, 49%, et c'est ce qu'on veut, 22%. Peut-être un commentaire, Julien ?
Oui, donc c'est assez net. C'est un secteur volatile qu'on recherche peut-être même pour sa volatilité. Et encore une fois, dans un portefeuille diversifié, c'est pas délirant d'être exposé à un secteur en forte croissance, mais avec un parcours chaotique. Peut-être qu'ASML, si le second semestre est meilleur, ils sont peut-être plus optimistes, et là, la machine peut être relancée.
Allez, on passe à la valeur qui se distingue aujourd'hui à la Bourse de Paris, qui d'ailleurs permet au CAC d'effacer une partie de la baisse d'hier, c'est LVMH. Le titre est en progression de 3,2%, et il gagnait 5% un peu plus tôt dans la journée. Alors, on a eu hier soir le chiffre d'affaires trimestriel de LVMH et la réaction des marchés, c'est un peu joué en deux temps, hein, Julien.
C'est surtout qu'il faut le regarder avec plusieurs regards, j'en mets dire.
Niveau de lecture.
Chiffres. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que quand vous regardez les données publiées, je parle bien de publiées, le chiffre d'affaires est même en baisse et il est inférieur aux attentes. Mais maintenant, voilà, ça c'est les données publiées. Il faut regarder avec plus en détail. Si vous excluez les effets de change qui sont plus forts que prévu, eh bien en fait, on regarde la donnée, la croissance organique, et là, elle est en accord avec les attentes de 3% pour l'ensemble du groupe. Et en plus de ça, on nous dit que les investisseurs, après l'aversement sur les résultats de Kering, ils avaient un peu revu à la baisse leurs propres prévisions. Ils étaient même moins optimistes que les analystes. Donc déjà, ça rassure. Ensuite, ces 3% de croissance organique, on était à 10% au quatrième trimestre. Donc il y a un ralentissement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce ralentissement ? Eh bien, en fait, c'est lié à des effets de base. Je vous explique simplement.
Il y a un an, en Chine, la consommation était très soutenue.
Alors justement, quatrième trimestre 2022, la Chine, si vous vous rappelez bien, restrictions sanitaires, on ferme, du coup forcément, l'activité baisse. Et après, premier trimestre 2023, eh bien, on rouvre, et là, gros gain d'activité. Et bien, tout ça, ça fait que LVMH, la base de comparaison a été clémente fin 2023, et là, au premier trimestre, elle a été beaucoup moins évidente. Donc, quand vous prenez tout ça, les chiffres, ils sont bien meilleurs qu'on pourrait le penser.
Alors, vous expliquez qu'en prenant compte de ces effets, on est en ligne avec le consensus, mais l'action est en nette progression à la Bourse de Paris. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi dans cette publication des éléments positifs, peut-être rassurants, sur les perspectives ?
Déjà, je vous l'ai dit, Kering a fait un investissement sur résultats retentissants le mois dernier. Donc, dans ce contexte, quand vous publiez des résultats en ligne, c'est déjà très bien. Et surtout, en fait, pour moi, il y a deux choses à retenir si on regarde les géographies. D'abord, les États-Unis. LVMH en croissance de 2% en données organiques aux États-Unis. Ça paraît peu, mais en vrai, c'est pas mal. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on parle souvent ici, l'inflation persiste. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça compresse la clientèle aspirationnelle. Donc, c'est les jeunes qui vont sur des produits un peu plus bas dans la gamme. Mm-hmm. Et donc, la clientèle aspirationnelle subit encore plus de pression. Et malgré ça, LVMH s'en sort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont toujours plébiscités par la clientèle plus aisée. Deuxième chose, la Chine. Vous regardez les résultats, Asie hors Japon, c'est ça, c'est là où il y a la Chine, baisse en données comparables de 6%. Donc on se dit, oh là là, ça va mal. Mais en fait, non, pas tant que ça. Jean-Jacques Guioni, il a expliqué, Jean-Jacques Guioni, c'est le directeur financier de LVMH.
Oui.
Il a expliqué que le cluster chinois, donc le cluster chinois, c'est les ventes en Chine des consommateurs chinois, mais aussi à l'étranger. Eh bien, ce cluster, il a progressé de 10% dans la mode marocaine, avec la principale division de LVMH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les touristes chinois ont plus acheté et ils ont soutenu la croissance d'autres pays. Et vous regardez en comparaison de ça, vous avez le Japon, où ça progresse de 32%. Ça veut dire que les touristes chinois ont plus acheté au Japon, notamment parce que le yen, il est très bas.
Et en termes de perspective, est-ce que cette publication nous donne des indications?
Écoutez, a priori, ce que les analystes espèrent, c'est que le second semestre de LVMH sera plus soutenu parce que la base de comparaison, elle sera moins exigeante. Je vais vous citer les prévisions d'Odo BHF pour la mode et maroquinerie, donc la plus importante division de LVMH. On a eu 2% au premier trimestre. Eux, ils pensent que ce sera 4% en données organiques au deuxième, puis 8% au troisième et 10% au quatrième trimestre. Donc, vous voyez, une montée en puissance. Et à côté de ça, vous avez aussi les vins et spiritueux. J'en dis vite un mot. On a eu une baisse de 12% avec une baisse de 8% pour les vins et champagne et surtout 16% pour le cognac. Là, il y a des effets de stockage qui ont eu lieu. Mais là encore, Jean Guigny était plutôt optimiste sur le fait que ça devrait se tasser dans les prochains mois.
Et cet article concernant LVMH, pourquoi est-ce que les résultats sont plus... Pourquoi est-ce que le début d'année de LVMH est bien plus robuste qu'il n'y paraît? C'est un article à lire sur le site de BFM Bourse avec évidemment bien d'autres articles comme tous les jours. 16h45, on passe au bullshitomètre. Vous le savez, tous les jours, on reçoit en plateau un invité qui vient déconstruire une affirmation ou une idée reçue. Aujourd'hui, on accueille Antoine Pellet, analyste gérant chez Monocle Asset Management.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. L'affirmation contre laquelle vous vous insurgez, ou en tout cas contre laquelle vous n'êtes pas d'accord, c'est Netflix, c'est fantastique. Vous dites, c'est du bullshit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? D'abord, il y a la situation récente jusqu'à aujourd'hui.
Oui, exactement. Alors, il faut garder en tête que depuis 4 ans, en fait, Netflix a connu 3 phases. La première, c'était 2020-2021. Il y a eu un énorme boost, une hausse du nombre d'abonnés qui a été assez importante. Arrive 2022, où on a des premiers signes de ralentissement. On a même une décroissance du nombre d'abonnés, notamment aux États-Unis, qui est le premier marché. Le cours de bourse est divisé par 3. Certains s'y cassent les dents, notamment Bill Ackman. Face à ça, le management prend des mesures. La première, c'est le lancement d'un abonnement à un coût moindre avec la publicité.
Ouais.
Et le deuxième, ça arrive mi-2023 avec l'interdiction du partage des mots de passe. Donc là, il y a eu un vrai boost à nouveau sur le nombre d'abonnés qui est passé aux États-Unis de 74 millions, qui était un peu un plafond qu'on avait depuis plusieurs trimestres, à 80 millions là, à la fin de l'année. Au niveau mondial, on est passé de 230 millions à 260.
Pourquoi c'est du bullshit alors?
Alors en fait, il faut garder en tête aussi que Netflix a deux moteurs de croissance. Un, c'est le nombre d'utilisateurs, et deux, c'est le prix de chaque abonnement. La publication de Netflix de demain soir, ce sera la dernière où ils bénéficieront de cet effet boost de 2023. Donc là, ça va se tarir. On a un taux de pénétration en Amérique du Nord qui est déjà de plus de 50%. En Europe, on est déjà entre 30 et 40%, donc on est sur des niveaux très élevés. Donc acquérir de nouveaux clients, ça va être moins facile, on va dire. Donc on a un scénario qui est possible où on retourne au niveau de 2022, une situation similaire. Ralentissement, potentielle baisse du nombre d'utilisateurs.
Alors, vous avez très bien évoqué, en fait, c'est que donc, vous avez les abonnés et le revenu par abonné. D'ailleurs, c'est maintenant cette métrique que privilégie Netflix plus que le nombre d'abonnés. Mais là, on part de la top line des revenus, mais il y a un autre levier qui, en fait, pour monter vos résultats, ça reste quand même de compresser les coûts parce qu'ils ont déjà beaucoup investi Netflix par rapport à d'autres acteurs du streaming. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent à serrer davantage et donc finalement qu'ils soient plus rentables? C'est ça qu'on leur demande finalement.
Alors, il y a deux choses, comme vous l'avez dit. La première, c'est le revenu par utilisateur. On a déjà vu Netflix augmenter ses prix de façon assez importante. Aux États-Unis, le prix moyen est passé de $10 à $16, donc plus 60% entre 2017 et aujourd'hui, sans impact drastique sur le nombre d'utilisateurs. En termes de coûts, en théorie, ouais, c'est possible. Le coût principal de Netflix, c'est l'acquisition de contenu. En 2022, c'était $17 milliards. En 2023, il y a eu un problème dans les studios à Hollywood, vous vous en souvenez sans doute, on est passé à $12 milliards. Cette année, on va retomber à $17 milliards. Donc il y a une question de savoir si on peut avoir une baisse pérenne des dépenses d'investissement par utilisateur. On va avoir un premier élément de réponse cette année, mais c'est la deuxième question qu'on peut poser.
Du coup, au niveau valorisation sur le titre, on en est où?
Alors, en prenant en compte les investissements cash et pas juste les amortissements pour cette année, Netflix, ça devrait générer entre 6 et 7 milliards de dollars de cash cette année. On a une valo boursière qui doit être de 270 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, on est sur un rendement d'environ 2%. C'est pas nécessairement mauvais en soi. Tout dépend des réponses que vous apportez aux questions sur la croissance. Cependant, nous, à ce niveau-là, on dit prudence.
Julien,
j'ai une question, Antoine. Au début d'année, Monk of America disait que Netflix avait gagné la guerre du streaming. Parce que là, vous évoquez un peu Netflix en valeur absolue, mais par rapport à ses concurrents, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il avait plusieurs longueurs d'avance. C'est une assertion que vous êtes d'accord avec ce que dit Monk of America ou pas?
Je pense que c'est plus difficile que ça. On a vu un de leurs principaux concurrents arriver il y a quelques années, ce qui était Disney, qui avait un avantage sur le contenu certain. Et quand on voit leurs résultats à eux,
oui, j'ai rien à
ça n'a rien à voir avec Netflix. Donc je ne sais pas s'il y a un véritable avantage dans cette industrie ou si c'est vraiment la course au contenu. Il faut continuer à produire et continuer à faire croître le nombre d'abonnés et même juste les garder.
Alors du coup, pour résumer, on achète ou on n'achète pas Netflix?
Nous, on n'achète pas. On est presque vendeur même.
Ouais. Est-ce qu'on peut miser sur d'autres acteurs de ce secteur? Parce que certaines choses que vous nous expliquez pour Netflix concernent aussi d'autres acteurs du streaming.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, le principal souci, c'est celui que j'évoquais juste à l'instant. C'est est-ce qu'il faut sans cesse remettre la main au portefeuille pour créer du nouveau contenu et garder une base utilisateur digne de ce nom? Sans même la faire croître, ou est-ce que on a un système plus proche de celui de la musique où vous avez une sorte de catalogue qui va suffire à entretenir votre base utilisateur? Pour la musique, ça paraît faisable. En ce qui concerne le cinéma, les séries, pour moi, ça reste discutable.
Surtout, vous l'avez dit, hein, les résultats de Disney ne sont pas comparables à Netflix. Netflix est quand même très rentable, quand même en bénéfice opérationnel, alors que la branche de Disney qui s'occupe de ça, elle est en perte opérationnelle. Hein, ouais, faut quand même le rappeler.
Enfin, Disney a d'autres activités pour éponger les pertes.
Oui, tout à fait.
Le cas de Netflix. Merci beaucoup pour ces explications, pour cette analyse, Antoine Pellet, Monocle Asset Management. Le titre Netflix est en léger recul, moins 0,18% à l'instant. Depuis le début de l'année, c'est encore une valeur qui progresse de 31,6%.
Résultat jeudi soir, il me semble.
615,25$, effectivement, dans les prochains jours. C'est une des publications qu'on suivra attentivement. On passe à notre Factor X. Vous savez, tous les jours, la rédaction de BFM Bourse repère une publication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'est intéressé à une publication de John Plassard. John Plassard, qui est tous les jours avec nous dans l'émission, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Alors, vous voyez ce graphique, c'est la répartition des points de vue des banques sur l'économie américaine. En jaune, scénario de hard landing, c'est-à-dire d'atterrissage de crash en fait de l'économie américaine. En bleu clair, c'est le scénario de soft landing, c'est-à-dire ralentissement, mais où finalement il n'y a pas trop de casse. Et puis en bleu foncé, c'est le no landing, c'est-à-dire pas de ralentissement de l'économie américaine. Donc on le voit très très bien ici. En l'espace de quelques semaines, le pourcentage de no landing est passé de 19% en février 2024 à 23% au mois de mars et 36% ce mois-ci. On voit bien que les banques ont changé complètement de perception hein, sur les perspectives de l'économie américaine.
C'est même plus précisément les géants d'actifs qui sont sondés par Bank of America.
Voilà.
Alors, on l'a vu récemment avec les ventes de détail qui étaient très bonnes hein, récemment. Donc, en fait, l'idée, c'est que, comme vous l'avez dit, l'économie américaine est plus résiliente et que, en fait, la conclusion de ça, ou la déduction, c'est oulala, les baisses de taux, il n'y en aura peut-être pas. Et je ne sais pas si vous avez vu hier, mais UBS AG a commencé à mettre une note dans laquelle, même si ce n'est pas son scénario central, il me semble, elle commence à dire que le risque d'une hausse de taux, il faut quand même commencer à le prendre avec sérieux. Elle apporte du coup du moulin à Michel Bowman. Michel Bowman, c'est une des membres de la Fed, et c'est une des membres les plus faucons, on précise bien, qui avait également dit qu'elle commençait à se dire pourquoi pas des hausses de taux. C'est pas le scénario central. Hein. Quand on regarde le marché et l'outil du CME, pour le moment, le scénario central, ça reste deux baisses de taux. Enfin, 50 points de base, donc deux baisses de taux.
Et pourtant, quand on regarde les prêts hypothécaires à 30 ans aux États-Unis, ils sont repartis à la hausse. Hein. 7,1% en moyenne sur la semaine écoulée. C'est le niveau le plus élevé depuis le mois de décembre. Ça indique
qu'il y a aussi, de ce côté-là, des anticipations peut-être de hausse des taux aux États-Unis. Ça paraît incroyable, c'est quelque chose qu'on n'aurait absolument pas prévu il y a encore 6 mois.
Écoutez, moi j'en parlais avec ma collègue de BFM Immo, Diane Lacaze, en France on a aussi léger frémissement et en fait il y a aussi une demande qui n'arrive pas à s'exprimer et peut-être qu'on bénéficie d'une fenêtre de tir même un peu favorable pour pouvoir... Est-ce qu'à long terme, est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? C'est la question qu'on se posait. On peut en douter un peu quand même au vu de la remontée des taux obligataires.
Est-ce qu'il y aura un statu quo aux États-Unis? Est-ce que la Fed va finalement baisser ses taux quand même puisqu'il y a des anticipations? On en parlera avec nos invités du club tout à l'heure à partir de 17h, Jean-François Robin et Geoffroy Lenoir. On termine avec le chiffre du jour. 3000, ce sont des dollars. Et c'est une nouvelle prévision, Julien, qui concerne les cours de l'or qui pourraient atteindre 3000 dollars l'once.
Alors oui, alors si je ne me trompe pas, c'est Citi qui dit que les cours pourraient tutoyer les 3000, même si leur scénario, je crois que c'est 2875 dollars. Bon, on est un peu moins de 2400 dollars l'once actuellement, donc vous voyez qu'il y a quand même un potentiel haussier, d'autant que Citi n'est pas la seule. La semaine dernière, Goldman Sachs déjà disait on pourrait monter à 2700 dollars. Donc il semble y avoir de la marge pour l'or, qui en fait progresse quoi qu'il arrive en ce moment. C'est ça qui est assez impressionnant. On parlait de la politique monétaire, qui est les anticipations de baisse de taux de la Fed qui sont moins favorables. Ça, théoriquement, pour l'or, c'est négatif, puisque l'or ne produit pas de revenus. Donc il a moins d'utilité. Enfin, il est pénalisé normalement lorsque les taux d'intérêt remontent.
Il n'y a pas de rendement.
Il n'y a pas de rendement. Merci beaucoup. C'est ça qui fait qu'il y a un arbitrage qui se fait par rapport au taux. Mais malgré ça, ils montent parce qu'il y a une demande physique qui semble être forte. On part de la Chine, demande des banques centrales, on parle encore de la Chine. Et même aux États-Unis, la semaine dernière, vous n'étiez pas là, Stéphane, on a parlé de Costco qui vendait plus de lingots d'or dans ses magasins. Donc ça se trouve, même les consommateurs américains, ils semblent se réfugier sur l'or. Donc il semble y avoir un momentum, une dynamique, je fais l'anglais, qui ne s'essouffle pas sur l'or.
On a longtemps considéré que l'or c'était une valeur refuge. On se dit à 3000 dollars l'once, ça veut dire que il y aurait de sérieuses inquiétudes sur le marché. Mais vous l'avez dit, il y a d'autres facteurs qui font grimper les cours de l'or, et notamment les banques centrales. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important depuis la guerre en Ukraine.
Et un peu la géopolitique.
Les banques centrales achetées massivement. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. Il y a un peu la géopolitique. Les tensions au Moyen-Orient ont pu aider l'or la semaine dernière.
Ouais. Merci beaucoup, Julien Marion, d'être venu en plateau, journaliste BFM Bourse. Merci à Antoine Pellet, analyste gérant chez Monocle Asset Management. La Bourse de Paris vient de passer à nouveau sous la barre des 8000 points. On est toujours en progression de 0,74%. Mais c'est évidemment un petit peu moins dynamique. Vous le voyez si vous nous suivez à la télé sur ce graphique. Tout au long de l'après-midi, les choses se sont dégradées sur le CAC. La faute à LVMH, en fait, c'est la valeur qui a permis au marché parisien de rebondir aujourd'hui. On gagnait plus de 4% il y a une heure et demie au début de cette émission. La progression sur LVMH n'est plus que de 2,8%. Ça explique ce petit coup de faiblesse dans l'après-midi. On va bien sûr y revenir avec Étienne Braque en direct d'Euronext dans quelques minutes. On marque une pause et puis on se retrouve aussi avec les invités du club. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.